Stop, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
MJV. Les journalistes m'intéressent.
You are fake news. Hello.
Il est presque 9h40, on est un tout petit peu en avance sur France Inter et c'est l'instant même qui démarre.
Vous êtes en direct, allez-y.
Bonjour à tous, Le Grand Bazar, c'est la nouvelle mini-série de M6, chaîne qui ne brille pas, vous en conviendrez, par la modernité de ses fictions, plutôt plan-plan, ni par le progressisme de ses magazines. Le Grand Bazar, histoire survitaminée d'une famille recomposée avec, c'est le cadeau bonus, une union mixte, mi-franchouillarde baba cool, mi-robeu, tradi, psychorigide au grand cœur. Au premier épisode, on a trouvé ça un peu surjoué et inégal, mais déjà, quelques répliques qui tuent. Arrivé au sixième, on a ri, on s'est attaché au personnage. On a parfois eu les larmes aux yeux. Et vous savez quoi? Les comédies familiales, on en a vu un paquet à la télévision. Mais le coup de la double culture, il est rare et surtout rarement bien traité. Ici, c'est fin et c'est malin. Et c'est sur M6.
L'instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Donc, vous aimeriez que je vous trouve un poste de chef dans un restaurant gastronomique? C'est ça?
Oui.
Oui?
C'est possible ça?
Bien sûr. Deux étoiles, trois étoiles?
Deux étoiles ou trois étoiles? Est-ce que c'est comme au ski dans les restaurants, les étoiles? Parce que là, je me situerais plutôt entre, je dirais, la deuxième et la troisième étoile. Disons trois. Trois étoiles.
Disons trois?
Oui, trois étoiles.
J'ai envie de mettre chamois, non? Chamois dans un gastro. C'est bien ça, non?
Ah oui, vous vous foutez de moi en fait. Hein? D'accord.
Voilà, quand on vous dit que c'est souvent bien écrit et qu'on a une petite tendresse pour Lies Salem, bah, on l'assume. Bonjour Baya Kasmi.
Bonjour Sonia.
Lies Salem, c'est donc l'acteur que vous venez d'entendre, un des personnages de la série, qui a mis sa patte, je crois, à l'écriture également de la série.
Bah, en fait, il a carrément co-écrit avec nous, avec le... Voilà, on était quatre co-auteurs.
Voilà, nous c'est aussi Michel Leclerc.
Michel Leclerc en premier lieu, voilà. Et puis Lies Salem et Sarah Kaminski.
Voilà, ils sont tous cités comme scénaristes. Baya Kasmi, on vous doit, avec déjà Michel Leclerc, Le Nom des gens, Sarah Forestier qui faisait l'amour à des hommes de droite pour qu'ils votent à gauche, c'était il y a 9 ans, personnellement j'en ris encore. Le personnage de Jacques Gamblin s'appelait Arthur Martin. Comment on a l'idée d'appeler un personnage Arthur Martin? Parce que je crois que c'est un des trucs les plus drôles que j'ai vu dans le cinéma français.
Bah, c'était une sorte de projection qui nous faisait beaucoup rire du nom de Michel Leclerc qui porte le même nom d'ailleurs que le patron de Rock Éclair qui est le frère de, je sais pas si vous savez quand même, d'Edouard Leclerc, et qui Michel, il a quand même déjà reçu des lettres tout à fait douloureuses de gens qui disaient qu'on avait maltraité leur enterrement.
C'est les pompes funèbres.
Non, mais c'était surtout comme les grands magasins, c'est quelque chose qu'il a entendu toute sa vie, et on se disait, comme ces machines à laver très fiables, on a trouvé
Arthur
ça marrant,
Martin.
Puis un peu
ouais.
Sincère. Quoi.
Voilà, tous les deux, vous avez signé aussi La lutte des classes qui vient de sortir en salle et qui a fait un carton avec Édouard Baird et Leïla Bekti. Vous, comme scénariste, Baya Kasmi, vous avez coécrit l'excellente série Hippocrate. Donc, le grand.
Non, le film. Pas la série.
Le film. Ah bon, c'est vrai? Ah, je croyais que c'était la série.
Non, c'est le film que j'ai coécrit.
Ah, d'accord. Ben voilà, vous m'apprenez
la
quelque
série,
chose.
La série, j'étais en train d'écrire celle-ci, donc je n'ai pas participé, mais j'ai trouvé fantastique.
Très bien, très bien. Alors, votre série à vous, parce qu'il fallait bien venir à cela, votre série à vous, c'est Le Grand Bazar et ça commence ce soir à 21h sur M6. On en parle dans un instant. Il y a Xavier Delaporte à mes côtés tous les mardis matins. Bonjour Xavier.
Bonjour Sonia.
Avec
bonjour à toutes et à tous.
Fenêtre de la porte et qui ce matin s'ouvre sur.
Eh ben, en ces jours où être serrés les uns contre les autres dans les transports en commun est un peu plus pénible que d'habitude et en attente des départs en vacances qui nous placent dans le train à côté d'inconnus, je voudrais réfléchir un instant à une activité qui a pris un sens nouveau depuis quelques années, c'est lire par-dessus l'épaule de son voisin. Dans l'ancien temps, lire par-dessus l'épaule de son voisin ou sa voisine était assez peu passionnant. Soit vous tombiez au milieu d'un livre et ne voyez pas l'intérêt d'un passage dont vous ne connaissiez pas les tenants et ne connaîtriez jamais sans doute les aboutissants, à moins que le trajet soit très long. Soit vous saisissiez l'occasion de lire un journal sans dépenser un sou, avec l'inconvénient de ne pas pouvoir choisir le journal en question ni le rythme auquel les pages étaient tournées. Aujourd'hui, que les livres se font plus rares dans les transports et encore plus rares les journaux, lire par-dessus l'épaule de son voisin consiste essentiellement à regarder ce qu'il ou elle trafique dans son téléphone. Et ça pose
toute une
série de questions. D'abord, il y a un dilemme moral.
Oui.
Doit-on résister ou doit-on prendre le droit de regarder ce que le voisin ou la voisine trafique dans son téléphone? Parce qu'il faut en convenir, un téléphone c'est autrement plus intime qu'un journal. Ce serait se faire voyeur, donc. Pour ma part, je tranche le dilemme moral en le déplaçant sur le terrain de la connaissance, car c'est l'occasion d'éclairer un peu le grand mystère de la science contemporaine, mais que font les gens dans leur téléphone?
Et
donc, je n'ai aucun scrupule à regarder par-dessus l'épaule de mes voisins, car à ce moment-là, je ne suis pas un affreux voyeur ou un radin qui veut pas payer son journal, je suis un ethnographe qui veut connaître ses contemporains. Alors, qu'est-ce qu'on apprend en regardant les gens regarder leur téléphone? D'abord, J'apprends que pas grand monde ne consulte les sites d'information, ça on le sait, mais c'est confirmé. Je suis sidéré aussi par la vitesse à laquelle les jeunes, les plus jeunes, font défiler les photos Instagram et la dextérité avec laquelle ils like ou pas d'un mouvement à peine perceptible d'un pouce. Et ça me fait réfléchir au sens parfois un peu profond qu'on donne à tous ces likes qui sont effectués si vite, et ça me fait douter du fondement de toute cette économie qui repose sur le like. Je suis étonné aussi par tous ces smileys de cœurs et de baisers qui fleurissent dans les textos le matin. Et je me pose une question. Ces gens qui envoient plein de cœurs le matin, s'adressent-ils à l'amoureux ou l'amoureuse qu'ils viennent de quitter et qu'ils retrouveront le soir? Ou alors reprennent-ils avec leur amant ou leur maîtresse une conversation amoureuse qui a été interrompue par la vie conjugale? Je n'ai jamais osé poser la question. J'aime aussi regarder les gens débriefer dans un groupe WhatsApp leur soirée de la veille avec plein d'allusions que je comprends pas mais qui les font sourire parce que c'est très beau quelqu'un qui sourit à son écran. Je suis étonné aussi par les gens qui ont sur leur téléphone des activités que je n'aurais pas soupçonnées au premier abord. Tel cadre cinquantenaire qui a une playlist de musique où défile uniquement des groupes de métal russes. Tel jeune homme très bourgeois qui regarde pendant trois quarts d'heure des vidéos d'émeutes dans les rues de Paris. Et il y a quelques temps, j'ai même vécu une expérience étrange. Dans un TGV qui allait vers la Suisse, comme par hasard, je me suis retrouvé placé derrière la dirigeante célèbre d'une grande entreprise française. Étant de biais, non. J'ai eu un frisson quand elle s'est saisie de son téléphone, dont je voyais l'écran presque aussi bien que si c'était le mien. J'allais voir donc tous les secrets industriels, j'allais voir même des secrets politiques. Eh ben, cette grande patronne, elle a joué à Candy Crush pendant tout le trajet. La question évidemment est pourquoi tous ces gens ne cachent-ils pas mieux leur écran? Eh bien je pense que c'est un mélange de paresse, de désinvolture et de modestie qui ça peut bien intéresser ce que je fais dans mon téléphone. Les mêmes raisons que celles pour lesquelles on dissémine nos données personnelles dans nos vies numériques, ça n'intéresse personne, sauf le jour où un voyeur sans scrupules, ou plutôt un ethnographe au travail, en parle à la radio.
C'est ça. Alors j'ai une théorie. Sur les cœurs qu'on envoie le matin. Et ben, je pense, moi qui suis férocement contre les smileys, je pense qu'on envoie des cœurs à n'importe qui pour n'importe quoi et n'importe quoi.
Non.
Et que vraiment, c'est dommage.
Vous pensez qu'il faut préserver le vrai sens
du
cœur?
Oui, il faut les réserver à ses amoureux, aux vrais. À réécouter sur franceinter.fr.
L'instant M, c'est aussi en vidéo sur franceinter.fr.
Il faut que je dise un truc. J'ai entamé des négociations assez serrées avec Marie au sujet de la garde des filles. Oui. Et j'ai bon espoir que ça aboutisse. En tout cas, je suis confiant sur la question. Il s'avère que...
Ça veut dire que tu vas me laisser toute seule ce soir?
Voilà. Je fais des concessions aujourd'hui pour obtenir plus demain, voilà, c'est ça.
Donc ça va être ça notre vie maintenant, en fait. Quand ce sera pas ton ex qui décidera de tout ce qu'on doit faire, ce sera ta mère.
Ou ton ex?
Ah non, ça n'a rien à voir.
Ah si?
Non, ça n'a rien à voir. Moi, je connais plus l'adolescence, d'accord? Il a très bien compris la situation. Il l'accepte parfaitement. Il t'apprécie beaucoup. Et tu veux que je te dise, lui, il m'aurait pas laissé ici toute seule. Ça, c'est sûr et certain qu'il m'aurait pas laissé ici toute seule ce soir.
La famille nombreuse est déjà depuis très longtemps un terreau dramaturgique fabuleux pour les séries télévisées. On en a connu beaucoup, françaises ou anglo-saxonnes. La séparation, la famille recomposée ajoute des éléments. Et ce qui est intéressant, Baya Kasmi qui signe Le Grand Bazar qui commence ce soir sur M6, c'est que la ligne de crête, elle est toujours ténue, assez ténue, entre ce qu'il peut y avoir de plus comique, de plus drôle et en même temps de plus douloureux.
Bah oui, particulièrement sur ces sujets de séparation, de il y a quelque chose de pour les gens qui l'ont pas vécu ou qui l'ont vécu, même quand on l'a pas vécu, je pense qu'on peut se projeter dans cette immense tristesse, voire inquiétude, voire angoisse, de se dire que ces enfants qu'on a mis au monde, qu'on a aimé, vont peut-être se retrouver avec d'autres gens, sous la responsabilité d'autres gens qu'on n'a pas choisis. Et que ces reconnexions, ces familles qui se recomposent, c'est aussi tout d'un coup les décisions de l'autre qui s'imposent à vous. Et aussi les gens qu'on aime le plus qui sortent complètement de notre giron. Donc ça, tout ça, ça fait très très peur.
Ça fait très très peur. Et en même temps, on voit bien qu'il y a là tous les ingrédients de la comédie.
Ben voilà, parce que d'abord, bon, moi je sais pas écrire de la comédie avec des choses rigolotes, quoi. Enfin, la comédie, ça part souvent des angoisses, des problèmes. C'est avec ça qu'on a le plus envie de rire. Et oui, et pour moi, ces inquiétudes et ces nouvelles familles, elles sont quand même aussi très très joyeuses. C'est-à-dire que c'est vraiment la rencontre avec l'autre. C'est des enfants et des adultes qui finalement rencontrent beaucoup plus de gens et doivent accepter les rapports avec l'autre qui lui ressemble pas. Et ça, c'est quand même une expérience de vie qui est intéressante, qui ouvre un petit peu, quoi. Voilà.
Alors, vous avez tout injecté, mais quand je dis tout injecté dans cette famille, c'est vraiment tout. Un père qui est sage-femme, une mère qui est avocate, donc qui gagne mieux sa vie que son mari. Une double culture avec des grands-parents algériens et des parents franco-babacool. Une ex-femme psychorigide, un ex-mari glandouilleur charmeur. Tout ça, ça se passe à Bagnolet, en banlieue parisienne, mi-bobo, mi-popu. Je vous donne par exemple un exemple, le grand-père.
Vous voulez dire que vous avez couché en 1982 avec Zachary Beausoleil, le chanteur de Je me coule dans la foule?
Voilà, en quelque sorte, mais pas plus de deux fois. Puis ensuite, il y a eu Mick en 83, sur la tournée des Stones. C'est mes deux seules incursions de l'autre côté de la barrière.
Mick? Mick Jagger?
C'est quand même une pute mythique, Mick. Ça pouvait pas s'enfuser. Mais question, je dois raconter tout ça à Nicolas. Qu'est-ce que ça va lui apporter
Ah ben non.
Dors comme un loir.
Je suis seul dans la foule. Mais y'a personne. Je suis seul sans ma poule.
Zachary Beausoleil.
Zachary Beausoleil.
Voilà, Mick Jagger, une beat mythique. On est quand même en prime time sur M6. Ouais. Et quand on travaille avec M6, on a carte blanche.
Alors, de façon assez étonnante, on a beaucoup de liberté, oui. Mm-hmm. Voilà, ils m'écoutent sûrement. Mm-hmm. L'équipe d'M6, ils savent à quel point j'ai eu du plaisir à bosser avec eux. Parce que c'était justement dans l'écriture, moi j'ai rencontré une équipe de fiction qui n'était pas snob, qui était dans le plaisir, qui aimait les auteurs, mm-hmm. qui avait envie de qu'on fasse des choses et qui nous ont pas imposé des systèmes. Donc en fait, ils aimaient la liberté avec laquelle on a travaillé. Après, on a aussi eu des embrouilles, enfin en tout cas des tensions qui étaient plutôt liées au montage, parce qu'il y a beaucoup de pression, je crois, sur un épisode 1 d'une série en prime time, parce que tout d'un coup on se dit mais est-ce que les gens vont rester?
Alors,
donc on a parfois eu des discussions sur le nombre, trop de musique. Moi je voulais mettre moins de musique, eux voulaient plus.
Ouais.
J'ai dû tendre beaucoup le montage du premier épisode, et en même temps c'était des influences que je comprenais très bien, parce que je comprends la peur qu'ils ont de laisser partir les spectateurs qui sont extrêmement...
Ce qui est intéressant, c'est que à chaque fois, Baya Kasmi, vous poussez le curseur très loin dans vos personnages. On flirte tout le temps avec la caricature et pourtant, on s'y attache. À quoi ça sert un stéréotype? À quoi ça sert, oui, un stéréotype? Et comment on fait pour que le stéréotype finisse quand même par nous ressembler, mais nous ressembler sincèrement?
Parce que je pense que ça sert déjà... Il vaut mieux partir d'un stéréotype pour ensuite en sortir. C'est-à-dire que quand vous rencontrez des gens dans la rue, il y a des personnes types. Vous décriviez tout à l'heure le gars de bonne famille. Ou on est comme ça, on voit des détails, on est ouvert à tout le monde est une caricature en fait. Donc si vous prenez quelqu'un dans la rue, il va vous décrire d'une certaine manière. Vous allez dire mais non, mais je suis pas comme ça, je suis bien différente. Et c'est le plaisir de prendre d'abord quelqu'un qui ressemble à une caricature et ensuite d'aller mettre des tas d'autres petits détails et de se dire mais non, comme tout le monde en fait, cette personne elle est construite de mille choses très très différentes.
C'est pour ça que au fur et à mesure des épisodes, il y a des moments d'émotion, il y a des séquences d'émotion qui s'insèrent. Moi, par exemple, dans le cinquième épisode, j'ai eu les larmes aux yeux deux fois. Il y a la retrouvaille entre deux amoureux. Il y a une séquence au tribunal qui est très émouvante. Quand et comment insère-t-on des larmes dans la comédie et surtout dans une comédie qui est survitaminée?
Je crois que c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on aime vraiment les personnages, qu'on s'est identifié à eux, à la fois dans leurs défauts, parce qu'il y a un vrai plaisir dans la comédie, il faut que les personnages aient des défauts, et ces défauts, il ne faut pas avoir peur de les creuser.
Mm-hmm.
C'est-à-dire que quand même, il y a une répétition, on sait que Mohamed, il sera jamais fiable, il va toujours faire s'incruster, il va toujours faire des
donc ça, c'est le côté mécanique.
Oui, un côté mécanique, c'est peu à peu, on s'attend à ce qu'il va faire et on trouve du plaisir à ce qu'il va faire. Maintenant, comme c'est des personnages qu'on aime vraiment, alors là, en plus, les séries, c'est bien particulier, c'est qu'on vit avec eux.
Ouais.
On vit avec eux sur un temps assez long et on espère vivre avec eux très, très longtemps. Donc, il y a vraiment un amour de ces personnages comme s'ils existaient, c'est très particulier. Ça existe comme spectateur quand on regarde des séries, parce que moi, Six Feet Under, les personnages des séries que j'ai aimées ou de This Is Us, j'ai l'impression qu'ils existent. Et moi, quand j'écris une série, je pense qu'on était tous les auteurs, on vivait avec ces gens.
Alors, occupation d'une école privée par les parents d'une école publique, bah oui, on est chez Baya Kasmi.
ACE1, pas pour rien. 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 Allons enfants. Le jour de gloire est arrivé.
vais. Voilà, pardon. Par contre, moi, il faut que j'y aille. En revanche, oui, parce que, en fait, c'est une réunion pour les CE1B alors que mon fils, il est en CM2.
Merci d'être solidaire.
C'est quoi, Baya Kasmi, un bébé de droite?
Beaucoup d'extraits avec les Salem.
Non, pas du tout. C'est quoi un bébé de droite?
Un bébé de droite, bah, pour moi, vous qui avez vu Le Nom des Champs,
voilà,
on a quand même une sorte de façon d'imaginer la vie, à se dire à chaque fois, bon, alors ça, est-ce que c'est de droite ou est-ce que c'est de gauche?
Oui.
Parce que tout a...
Vous n'imaginez pas le bien que vous nous faites. Non mais c'est vrai, il y a plus personne ne veut parler de droite et de gauche. Hier, je recevais les patrons de Brut, qui est un média pour les réseaux sociaux. Vous avez un prisme idéologique? Non, pas du tout. Vous avez une vision politique des choses? Non, pas du tout. Vous avez une ligne éditoriale? Ah bah non, pas du tout.
Bah,
les gens en ont marre qu'on leur dise quoi penser. Alors que vous êtes notre dernier refuge. Enfin, il y a la droite et il y a la gauche, quoi.
Quelle responsabilité.
Oui,
moi, j'ai quand même l'impression que quand on dit qu'on est ni de droite ni de gauche, c'est qu'on est de droite. Donc voilà, c'est tout. C'est juste la réponse. Ah non, je n'ai pas d'idéologie. Bon, bah, t'es de droite, donc.
Alors, pour le coup, vous avez travaillé avec Michel Leclerc sur Fais pas ci, fais pas ça, qui a été une très longue et très belle et très réussie comédie familiale sur France 2. Et là, vous en avez campé une de famille de droite. Tout ça se passe à Meudon. C'était les Le Pic. On était vraiment chez les
Besbèges. Alors moi, je précise que la créatrice de la série, c'est pas... Moi, j'ai juste fait un texte.
Voilà. Vous avez pris le train.
Voilà, c'est Anne qui a créé la série et qui... Et Michel a réalisé des épisodes.
Plusieurs épisodes.
Du coup, là, il y a eu un petit flottement parce que comme on a tous les deux travaillé sur cette série, que c'est aussi la même société.
Même producteur,
qui produit. On a beaucoup parlé des deux parce que je pense qu'il y a vraiment un lien qui est la famille. Mais sinon, c'est deux séries très différentes.
Et c'est moi, deux séries très différentes. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est comment on travaille sur les stéréotypes et comment on en fait des personnages qui finissent par rentrer dans nos familles à nous. Parce que là, pour le coup, vous avez quitté Meudon, on est à Bagnolet. Et pour le coup, vous l'avez pas campé politiquement, cette famille. Elle est plutôt campée socialement, cette famille, cette nouvelle famille que vous nous racontez là dans le Grand Bazar.
Moi, justement, j'avais l'impression que... Pour le coup, Fais pas ci, c'était vraiment deux familles bourgeoises, alors qui avaient des tripes différents. Il y en avait une qui était un peu plus libre, qui était un peu plus recomposée. Là, on avait vraiment envie d'écrire une série populaire. D'abord parce qu'on trouve qu'il n'y a pas beaucoup de séries qui se passent dans des vrais milieux populaires. Mm-hmm. Et on avait envie de les décrire tels qu'on les ressent nous, c'est-à-dire assez joyeux. On n'a pas besoin d'être dans un grand espace, d'être riche et que ça soit joli et blanc pour que ça soit joyeux. Donc voilà, c'est ça qu'on a fait, tout simplement.
Alors voilà, dialogue entre les grands-parents algériens, une mère de famille qui s'émancipe.
C'est très à la mode l'école de la mixité, Ouachbik. Non, mais je te promets, tu seras toujours le chef. Hein. Tu sais que je suis fidèle.
Ça, c'est obligatoirement.
Obligatoirement.
Ben voilà, ça aussi, ça manque, non, à la série française en général?
Quoi?
Quoi, Biyuna? À votre avis, Biyuna, exactement.
Biyuna et Jemel Barak qui sont fantastiques dans la série. Enfin, moi, je les adore. Alors, ça, c'est nul de faire une série puis après de la trouver
formidable.
Mais, ouais. Non. Ça fait un peu, c'est un peu honteux, quoi. Mais aussi parce que moi, j'aime les comédiens. Et ces comédiens-là, je crois que vraiment, c'est la force de la série. Mm. On s'en lasse pas. C'est avant tout une série de personnages et donc une série de comédiens. Oui, la mixité, ça manque certainement.
Non, c'est surtout le traitement en réalité de la double culture, parce que là, il est quand même très fin, il est quand même très malin, il est quand même toujours drôle, et en même temps, on sent tous les nœuds et tous les moments où ça coince entre les générations, entre ceux qui ont grandi ici et ceux qui ont grandi là-bas.
Ouais. Et puis il est dans un quotidien, c'est-à-dire que cette double culture, triple culture, ces mélanges-là dans les familles, je trouve que c'est pas encore assez raconté.
Non.
Dans un vrai quotidien qui n'est pas problématique. Mm-hmm. Parce que, en fait, c'est au jour le jour, quoi. Moi, j'ai des enfants qui ont des influences algériennes, juives, françaises. Et ces influences, elles passent en même temps. C'est des petits blonds, ils ont l'air de petits français. Mm-hmm. Mais ils sont nourris de tout ça et c'est beau. Donc c'est vrai que comme on le raconte beaucoup dans les médias, de façon très problématique, on a un petit peu envie de ça. Et là, je crois que c'est léger. Alors, le risque, c'est juste ça, c'est que effectivement, on démarre quand même avec des stéréotypes.
Oui.
Et ensuite, on va les découvrir dans leur complexité.
Merci beaucoup, Baya Kasmi. Le Grand Bazar commence
ça
sur...
Ça me donne envie. Hein.
Oui, ouais, nous, on a bien rigolé. Et aussi et un oui, peu pleuré.
Ça me parle. Ça,
ça me parle, dit Ali Rebéi, qui vient de s'incruster dans mon studio. Comment ça va,
merci
Ali Rebéi?
Merci beaucoup, Sonia-Deville.
C'est la fin de l'émission.
On s'intéresse ce matin aux relations amoureuses entre les hommes et les femmes. Avec...